fremde Kulturen ins Rüebliland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Hallo zusammen, Sie sind live in der Sendung Fenêtre sur l'Afrique, eine afrikanische Politik und Kultur-Sendung. Am Mikrofon, ich bin Sylvain Amos. Die Wahl der Präsidenten in Kongo am 28. November wird von der Mehrheit der in Ausland lebenden Kongolesen in Frage gestellt. Präsident Kabila werfen sie Wahlbetrug vor. In Togo hat die Regierung zwei Universitäten geschlossen wegen gewalttätigen Demonstrationen von Studenten. Diese fordern bessere Studienbedingungen. Über diese zwei Themen aus dem Kongo und Togo werde ich mit meinen eingeladenen Gästen diskutieren, mit Telefonangestattung. Viel Spaß auf Radio Kanal K. Bonsoir Lomé, bonsoir Kinshasa, Libreville, Accra, Abidjan, Bamako, N'Djamena. Chers frères africains, amis du continent noir, merci et bienvenue dans cette émission. Et également, merci de nous témoigner encore une fois votre fidélité pour cette émission Fenêtre sur l'Afrique, un programme panafricain de Radio Kanal K en Suisse. Au sommaire de cette édition, l'élection présidentielle du 28 novembre dernier en République démocratique du Congo. Des Congolais et ceux de la diaspora protestent contre la réélection de Joseph Kabila. Ils étaient nombreux, ces Congolais de la Suisse, France, Belgique, États-Unis, etc., à sortir massivement dans les rues pour exprimer leur mécontentement juste après la proclamation des résultats provisoires du scrutin en RDC. Et nous en parlerons dans quelques minutes dans ces manifestations et de ces manifestations avec Freddy Moulongo, un journaliste congolais de la diaspora congolaise. Au Togo, le gouvernement a fermé les universités de Lomé et de Kara suite à des manifestations violentes des étudiants qui demandent une meilleure condition d'études. Kara, fief du régime en place, a connu pour la première fois dans l'histoire politique togolaise des manifestations violentes. Et ce qui a surpris beaucoup de Togolais, Monsieur Abbas Kaboa, natif de Kara, président du mouvement républicain centriste MRC, sera également l'invité de Fenêtre sur l'Afrique et pour dire comment et pour nous dire ou comment expliquer ces manifestations dans les villes du nord du Togo. Et bien sûr, et vers la fin de cette émission, Che Lawson, élu ancien président des étudiants du Togo et actuel président du mouvement pour un Togo nouveau, MTN, interviendra également sur les manifestations et les revendications des étudiants au Togo. Gisela Rosato, Josué Maoli, Esteban Gagnon, Romain Koudodji, Fabi Kouassi constituent l'équipe de production. Fenêtre sur l'Afrique est réalisée et présentée par Sylvain Amos. Encore une fois, merci de nous suivre en direct sur le www.canalk.ch. Et sans plus tarder, je vous propose de suivre l'éditorial de Romain Koudodji qui est en ligne en direct depuis Bonn. Romain, bonsoir.
Bonsoir, chers amis, chers confrères, et nos amis de la RDC, recevez nos soutiens les plus patriotiques. Élections frauduleuses en RDC, une honte pour le continent. Marchez. N'ayez pas peur. Nous vous demandons, si nous mourons demain, de garder nos enfants convenablement. Nous allons mourir pour vous, pour la dignité du continent noir, et nous ne le craignons pas. Ils sont venus avec leurs gros engins, avec des soldats armés de fusils, pour nous tuer. Et si nous disons que nous voulons obtenir notre indépendance, eux, ils ont des fusils. Nous avons nos mains. Je vous le demande à vous. Est-ce que vous avez peur? Nos mains suffiront. La pensée politique de Patrice Emeris Lumumba alias Okitazambo. Le 17 décembre de l'an 2011, la SDC a encore écrit une page sombre sur le continent noir dans la marche vers la démocratie par le truchement de la Cour suprême de justice, CSJ, qui a pris le relais de la CENI en proclamant officiellement le vainqueur présumé le 17 décembre en la personne de Joseph Kabila. D'emblée, son challenger, Étienne Tshisekedi, a exclu tout recours devant la CSJ en la qualifiant d'institution privée de M. Kabila. Le Royaume-Uni s'est dit préoccupé par des soupçons d'irrégularité et a appelé la CSJ à examiner les recours rapidement et de façon transparente. Cette institution a déjà fait l'objet de critiques. Fin novembre, les missions de l'Union européenne et du Centre Carter ont dénoncé son manque de transparence en matière de contentieux électoraux. Jusqu'au 28 octobre, la Cour suprême comptait 7 magistrats. Mais le président Kabila en a nommé de nouveaux pour arriver à un total de 27 dans le but manifeste de bien huiler le mécanisme à fraude. S'il est évident que du Togo, de Fort Nyasingbé, au Burkina de Blaise Compaoré, en passant par le Cameroun, de Biya ou encore au Congo, Brazzaville de Sassou Nguesso, ils sont tous des mâles élus, le cas de la RDC est une école à part. Le challenger du poids, j'ai nommé Jean-Pierre Bemba, est entre les murs à la haie pour des forfaits qui ne concernent même pas son pays, tandis que Kabila Joseph, dont l'armée viole et pille tous les jours les citoyens, se la coule la douce. L'autre cliché sombre est celui des mâles élus du continent qui n'arrivent pas à condamner cette mascarade car étant allés à la même école, c'est-à-dire des mâles élus. Ne me demandez surtout pas de connaître la position de la France, encore moins celle de l'ONU ou de l'OUA. Je vous dirai avec humilité que ces machins font la honte du continent à l'échelon mondial. Alors, peuple congolais, peuple fier, peuple qui assume son héritage aussi lourd, marchez, n'ayez pas peur, criez au moins votre désapprobation de par le monde entier pour que les choses changent, pas pour vous, mais pour vos prospérités et vos génitures à venir.
Et bien,
bien, nous avons besoin de révolution. L'Afrique a besoin d'une révolution intelligente et jeune, chantée par Tiken Diafakoli, l'Ivoirien. L'élection présidentielle du 28 novembre dernier en République démocratique du Congo inquiète beaucoup d'Africains et aussi la communauté internationale. Comme toute attente, depuis hier, Joseph Kabila est réélu. Les Congolais, quant à eux, tant au Congo que dans la diaspora, ont manifesté, exprimé de vive voix leur mécontentement contre ce qu'ils appellent une mascarade électorale. Le scénario est le même en Afrique, surtout francophone, où les élections sont souvent contestées par la population. Le cas du Togo, où depuis plus d'un an, le FRAC, un front de l'opposition, manifeste et conteste toujours l'élection présidentielle du 4 mars 2010 au Togo, en dit long. Et pour revenir en RDC, sur cette élection présidentielle à un seul tour, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo, a affirmé lundi 12 décembre dernier, dans une déclaration à la presse de Kinshasa, que les résultats de la présidentielle qui ont donné la victoire au président sortant, Joseph Kabila, ne sont conformes ni à la vérité, ni à la justice. Les observateurs du centre Carter, quant à eux, ont dénoncé les résultats de l'élection présidentielle congolaise. Et dans un communiqué, l'ONG de l'ancien président américain Jimmy Carter estime que le processus de compilation des résultats manque de crédibilité. Durant les contestations des Congolais à l'étranger comme contre la réélection de Joseph Kabila, on a noté une forte mobilisation de la diaspora congolaise, que ça soit aux USA, au Canada, en France, en Belgique, ici même en Suisse. Nous allons accueillir dans un instant au téléphone depuis Genève un journaliste de la diaspora congolaise et qui va nous parler un petit peu de ces élections au Congo.
togo5-togo.com, ici lomé.com, cvu-togo-diaspora.org, africinternews.com sont nos sites d'information panafricains, partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des...
Bonsoir, chers amis et confrères.
Merci d'être en direct dans cette émission avec nous, dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Alors, Freddy Moulongo, et vous êtes journaliste congolais résident à l'étranger, notamment en France. Et vous êtes également, vous êtes actuellement de passage à Genève, ici même en Suisse. Alors, Freddy Moulongo, dites-nous comment les Congolais de la diaspora ont accueilli la réélection de Joseph Kabila.
Les Congolais de l'étranger n'ont jamais cru aux élections qui étaient organisées par la CENI avec le pasteur Daniel Mulunda, simplement parce que la majorité d'entre eux sont opposés à la dictature totalitaire de Joseph Kabila, et donc ils sont dans la résistance. Alors, les faits que Ngoï Mulunda, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI est proclamé Joseph Kabila comme étant le vainqueur de ces élections, alors que d'après les procès-verbaux que nous avons en majorité, c'est Étienne Tshisekedi qui a été élu. Alors on se pose la question, d'où vient ces chiffres dont nous parle Daniel Mulunda avec la CENI? D'ailleurs, cette décision a été entérinée par la Cour suprême de justice, ce qui est vraiment lamentable, parce que Étienne Tshisekedi, non seulement ça fait 51 ans qu'il est, disons, dans la politique congolaise, dans les paysages de la politique congolaise, c'est le seul homme politique qui vient en Europe, qui est accueilli et qui peut parler avec les Congolais de l'étranger sans raser le mur comme les font tous ceux qui sont au pouvoir. Donc aujourd'hui, on a les sentiments que nous avons été bluffés. Les Congolais de l'étranger ont les sentiments que l'élection leur a été volée
et bon, on attend comment est-ce que ça va se passer. Mm-hmm. Vous savez que la Cour suprême de justice devait normalement annoncer les résultats aujourd'hui.
Aujourd'hui, oui.
Mm-hmm. Alors, ils ont pris tout le monde de court et l'ont fait hier soir, mm-hmm. dans la nuit, mm-hmm. Sans informer tout le monde. Mm-hmm. Vous savez que, à Kinshasa, il y a un problème de délestage. Donc, il y a beaucoup de Congolais qui n'ont pas su que la Cour suprême de justice avait confirmé Joseph Kabila. Donc là, ça bouge un peu, ça bouillonne, et on verra comment est-ce que ça va se passer dans les jours qui viennent.
Exactement, Freddy Moulongo. Certes, il y a eu une très grande mobilisation des Congolais de la diaspora avant les élections, et cependant, elle a été plus forte après le scrutin présidentiel. Alors, décidément, ces manifestations n'ont rien changé, Freddy Moulongo.
Oui, mais on a l'impression que ces élections étaient grigées, elles étaient boutiquées en avance, pour que Joseph Kabila soit réélu. Parce qu'on ne comprend pas, si on tenait vraiment en compte les souverains primaires, si on tenait en compte les voix des Congolais, parce que d'abord la province la plus peuplée de la République démocratique du Congo, ce n'est pas les Katanga comme veut le dire la Commission électorale indépendante, mais c'est d'abord Kinshasa, qui a plus de 12 millions d'habitants. Et donc, sur les 12 millions d'habitants, on peut estimer qu'il peut y avoir 4 à 5 millions des adultes qui ont déjà 18 ans qui peuvent voter. Or, qu'a fait Daniel Ngoï Moulunda? Il a pris des chiffres, je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé. Il fait voir à l'opinion nationale et internationale que le Katanga a élu majorité à 114%. Vous avez déjà vu quelqu'un être élu à 114%? En tout cas, moi, je, avec le peu de mathématiques que je connais, je sais qu'il y a les 100%. Mais lui, il est arrivé jusqu'à 114%. Vous savez, l'église catholique, c'est quand même une église qui est présente, puissante en République démocratique du Congo, présente dans tous les coins et recoins de la République. Et vous savez très bien que le cardinal Laurent Monsengo, qui est l'archevêque de Kinshasa, a remis en doute les chiffres de la CENI. Et il n'est pas le seul, il y a le centre Carter qui a fait de même, il y a certains observateurs de l'Union européenne qui délient les langues, etc., etc. Mais il faut voir dans quel foutoir a été, disons, le centre de compilation.
Oui, Frédéric Moulongo, l'opposition demande une médiation africaine avant que la situation ne dégénère à nouveau en RDC. Alors Kofi Annan, par exemple, aurait décliné une sollicitation. Alors Frédéric Moulongo, pensez-vous vraiment que la médiation africaine arriverait à trouver une solution à ce contentieux électoral en République démocratique du Congo?
Mais je crois que s'il y a une médiation africaine, il faut qu'elle fasse vite, parce que les Congos risquent de sombrer vraiment dans les chaos. Parce que la majorité des Congolais ont l'impression que leurs voix ont été volées pour plébisciter Joseph Kabila, qui est en fait le candidat d'un certain lobby. Vous savez que la République démocratique du Congo regorge beaucoup de minéraux, y compris les coltans, qui nous permet de nous parler à distance avec les téléphones portables. Ces minéraux-là, on les trouve qu'en République démocratique du Congo. Donc, il faut dire qu'il y a des lobbying qui ont fait en sorte que Joseph Kabila soit maintenu pour la simple raison, c'est qu'il y a beaucoup de contrats léonins qu'il a signés et que son départ va signifier la rupture de ces contrats. Mais faut-il, pourrait-on sacrifier les souverains primaires, la volonté du peuple congolais au détriment au pouvoir de ces lobbying pour arriver à piller les richesses minières en République démocratique du Congo? Je pense que non. Si nous voulons la démocratie, il faut que ça soit enrobé aussi de la justice. Étienne Tshisekedi est victime aujourd'hui des hold-up électorales de la part de Joseph Kabila, qui a caporalisé toutes les institutions, y compris la Cour suprême de justice, où les magistrats sont vampirisés pour donner des faux résultats, et les Congolais ne vont pas se laisser faire. Donc, s'il y a une médiation, il faut qu'ils les fassent maintenant et vite. Et je pense que les Congolais prennent conscience qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour arriver à bouter dehors Joseph Kabila et tous ses amis joséphistes, prédateurs et tout ce que vous voulez.
Oui, oui, une dernière question, Freddy Moulongo. Et monsieur Louis Michel, le parlementaire belge, propose sa formule. Et il parle d'un gouvernement d'union nationale pour le partage du gâteau. Alors, que pensez-vous, Freddy Moulongo?
Non, mais Louis Michel doit d'abord aller se réhabiller, c'est pas en Belgique ou à Liège, là où il réside. Parce que la Belgique a fait plus de 541 jours sans gouvernement, les Congolais n'ont jamais rien dit. Alors qu'ils s'occupent de la Belgique, qu'ils s'occupent des problèmes de la Belgique, et on ne veut pas de Louis Michel au Congo. Nous en avons assez d'un Tintin au Congo. Et donc Louis Michel, avec son soi-disant expertise, il est parmi ceux qui ont mené le Congo dans l'état où nous sommes aujourd'hui, où ce sont les seigneurs de guerre qui se pavanent librement, sans qu'il y ait justice, où on a mis des criminels économiques et même politiques dans les gouvernements pour arriver, soi-disant, à une certaine cohésion. Et vous savez que qui a bu boira, donc nous sommes dans une situation où aujourd'hui, les joséphistes ont volé plus que les 32 ans de Mobutu. Ils se sont enrichis plus que les 32 ans de Mobutu. Alors que la population congolaise croupit dans la misère, alors que la RDC est rétrogradée jusqu'à la 187e pays en tant que développement humain, d'après les rapports de PNUD, je pense que là, ça suffit. Louis Michel, qui s'occupe de la Belgique, on n'a pas besoin de le voir.
Merci.
On n'a pas besoin de sa tronche.
Merci. Merci beaucoup, Freddy Moulongo. Et je rappelle que vous êtes journaliste congolais. Vous résidez quand même en France. Vous êtes actuellement de passage à Genève. Merci quand même d'avoir été en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique.
Merci beaucoup à vous.
Eh bien, nous allons faire un tour maintenant au Togo et où nous allons retrouver notre correspondante Fabi Kouassi qui est déjà en ligne en direct depuis Lomé pour le briefing de l'actualité politique au Togo. Fabi Kouassi, bonsoir.
Salut, bonsoir, bonsoir à Fenêtre sur l'Afrique.
Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Vous suivez pour nous les manifestations du FRAC qui continue toujours son habituelle marche de protestation à Lomé. Alors Fabi, est-ce que ces manifestations ont pris une autre ampleur après celle des étudiants et élèves du Togo qui revendiquent une meilleure condition d'études depuis quelques semaines, Fabi?
Non, c'est ce que tout le monde avait imaginé, mais pas d'ampleur particulière du côté du FRAC, faible mobilisation d'ailleurs pour le FRAC ce samedi à cause de la tournée de l'ANC dans le Togo profond, à en croire les organisateurs de ce rendez-vous désormais hebdomadaire, et qui continue de contester la réélection de Florian Singbe et dénoncer les dérives du pouvoir. Au chapitre des messages, le soutien du FRAC est allié justement aux étudiants dans leurs revendications. Le FRAC qui compte apporter sa touche pour que ces revendications soient satisfaites. Le FRAC est allié soutient également la LTDH, la Ligue togolaise des droits de l'homme, qui vient de sortir un rapport assez sombre sur la situation des droits de l'homme, ce qui fait sortir de son gond le pouvoir dictatorial de Lomé, qui voudrait que tout le monde regarde dans la même direction en fermant les yeux sur tout ce qui va de travers dans le pays. Et donc, autre message qui mérite qu'on en parle, Claude Amégenvi, qui est revenu sur sa tournée européenne et rappelle, comme on le sait déjà, que la diaspora être fortement déçu par le revirement de l'ex-opposant Gilchrist Olympio et ne voudrait plus entendre parler de la politique au Togo. L'initiateur du slogan fort dégage d'y avoir expliqué en tout cas la situation aux Togolais de la diaspora et les a encouragés, invités à participer à la lutte du peuple togolais qui reste, quoi qu'il en soit, debout pour dire non à la dictature implacable. Denis Singh-Ekpozanegandi appelle enfin les Togolais à la mobilisation pour créer un mouvement d'ensemble de contestation du sud au nord, de l'est à l'ouest, pour faire partir le régime RPP. L'ANC, on le rappelle, est en tournée dans le Grand Nord avec au programme un grand meeting demain à Kara, Jean-Pierre Fabre et sa suite ne regagneront Lomé que lundi soir.
Oui, Fabi Kouassi, pour la première fois, il y a une manifestation qui est aussi violente au nord du Togo, notamment à Kara, à Sotoubois, Sokolé, à Dingré. Alors Fabi, quelles réflexions faites-vous sur la situation délétère avec la crise qui se propage dans tout le Togo?
Oui, vous avez tout dit, les signaux sont au rouge, tous les ingrédients sont réunis pour un soulèvement des plus populaires. Si le Togo connaîtra sa révolution, la seule certitude est qu'elle n'aura rien à voir avec celle de la Tunisie ou de l'Égypte, pour ne citer que ces deux pays. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles les protestataires qui sont aujourd'hui les élèves et étudiants et une bonne partie de la presse parlent de révolution à Armenton, du nom de ce vent fait qui souffle en ce moment sur le pays. Printemps arabe pour les uns, donc révolution à Armenton pour le Togo, peut-on se demander. En tout cas, la tension monte d'un cran et ne va pas baisser de sitôt. Dans l'agenda des contestataires, une mobilisation ce mercredi à la colombe de la paix qui ferait bien une place à rire ou une place de la libération de tout un peuple pris en étau et en otage par un régime presque cinquantenaire qui refuse de s'inscrire dans la logique démocratique comme ses voisins du Bénin, du Ghana. Un régime cinquantenaire entretenu par une seule famille, l'ayant signé avec une trilogie assez énervante, le Togo du père en fils et d'un mauvais esprit que constituent les forces armées togolaises planiques et politiques qui est le soubassement même du pouvoir dictatorial avec la bénédiction de la communauté internationale qui, malgré la monarchie instituée, soutient que le Togo fait des avancées démocratiques en saluant à tout rompre les mascarades électorales et contre la volonté populaire. Cette communauté internationale continue d'imposer les représentants d'une même famille pour sauvegarder ses intérêts. Mais les pronostics de ces marchés nationaux et internationaux sont en train d'être dangereusement déjoués par une population déterminée qui n'en peut plus avec la politique de la pauvreté savamment entretenue par le pouvoir depuis plus de 4 décennies. Et donc depuis le 8 décembre, le Togo montre enfin qu'il va mal, très mal. La contestation se généralise, les villes, les villages supposés à tort fiefs d'un pouvoir illégitime et usé crient leur ras-le-bol. Puis à village natal de Nyansingé, Kara s'enfuir du pouvoir en place, à Djengré, Sotoubois, Soli, Sokolé, Vogan, à Fagnan, etc. Le Togo est en train de prendre feu malgré l'arrogance des autorités, faisant toujours croire qu'elles maîtrisent la situation et donc que cette arrogance ne pourra éteindre l'incendie. Malgré aussi le silence suspect et coupable de certains médias internationaux, le Togo entame un nouveau tournant dans son histoire politique de la contestation des étudiants qui continuent de réclamer des meilleures conditions d'études, tout le secteur de l'éducation apprenant comme enseignant est dans la rue, et ce tous les jours de la semaine avec le soutien des populations. Des mouvements de rue qui font ressortir le malaise politique qui couvait depuis plusieurs décennies et qui vient rappeler que les Togolais veulent voir d'autres dirigeants. Bref, le Togo a besoin d'une alternance. Sinon, comment comprendre que lors d'une revendication estudiantine qu'on puisse lire sur des pancartes à Kara, fort dégage, fort démission, libérer Taka Nyansingbé des sujets hautement politiques? Comment comprendre que les manifestants se soient attaqués aux symboles du pouvoir, aux maisons des pompes du pouvoir, aux véhicules de la police? Comment expliquer enfin que les manifestants, toujours à Kara, en plus séquestrer un préfet qui est le représentant du pouvoir public? Le Togo est malade de ses dirigeants qui semblent ne pas comprendre que les Togolais veulent une nouvelle classe dirigeante qui a une autre vision pour le Togo. Un autre message, Sylvain, assez révélateur, qu'on a pu lire sur les murs à Kara: nous en avons marre de votre arrogance et de votre insolence. Voilà un pays où la majorité végète dans la misère et où une toute petite poignée de gens mènent une vie princière et sultanesque avec leur progéniture, qui sont pour la plupart en Europe pour leurs études, qui pour une fracture de bras, un mal de tête se soignent en Europe, qui pour le chocolat, pour qui le chocolat se commande en Europe. Voilà un pays où les costumes du prince se lavent en Europe, où le cognac du prince s'achète en Europe, où les dignitaires et leurs bandes de copains et copains s'offrent des concerts privés, etc., etc. Et dans le même pays, les pauvres Togolais peinent à se nourrir, peinent à se loger, peinent à se soigner, peinent et peinent toujours. Oui, le Togo connaîtra bel et bien sa révolution, puisque le pouvoir a démontré qu'il ne peut pas régler les problèmes du monde étudiantin et tous les problèmes du Togo. Et malheureusement, tel une autruche, Fornia Simbé plonge le nez dans le sable pour ne rien voir et ne rien entendre. Pendant ce temps, le mouvement s'éparpille sur tous les territoires et tout porte à croire que plus rien ne sera plus comme avant.
Fabi Kouassi, merci. Eh bien, nous allons toujours rester au Togo où, dans ce pays, depuis quelques jours, le gouvernement qui vient de fermer les deux universités est confronté à un grand problème. Il s'agit des manifestations violentes des étudiants élèves qui revendiquent une meilleure condition d'études. Notre correspondante Fabi Kouassi vient de le soulever. Alors, chose surprenante, Kara, une ville située à plus de 400 km de Lomé et fief du régime en place, a connu également des mécontentements des étudiants, voire même des autochtones qui scandaient « fort démission, fort dégage ». Alors, parler des manifestations violentes à Kara et dans quelques villes du nord du Togo est une première dans l'histoire politique togolaise. Dans la diaspora togolaise, tout comme au Togo, et plusieurs interrogations se posent. Et pour plusieurs partis de l'opposition et même de la société civile, et fustige le gouvernement togolais par des communiqués. Le collectif pour la vérité des urnes, CVU Diaspora, CVU Togo Diaspora, est même allé loin en demandant au peuple souverain de se lever pour la bataille finale. Le Togo va-t-il encore connaître un 5 octobre bis? Et pour en parler, nous accueillons tout de suite en ligne, en direct depuis Lomé, Abbas Kaboua, natif de Kara, ville qui a connu ces derniers temps les manifestations les plus violentes. Abbas Kaboua est président du mouvement des républicains centristes. Nous le prenons tout de suite en direct depuis Lomé. Abbas Kaboua, bonsoir.
Oui, bonsoir, cher ami.
Merci d'être en direct depuis Lomé. Merci également de nous éclairer sur la situation politique actuelle du Togo et plus particulièrement et sur les manifestations estudiantines. Alors, Abbas Kaboua, vous êtes le président du mouvement des républicains centristes, MRC, un parti politique au Togo. Et le Togo est confronté depuis plus de deux semaines à ce que les étudiants appellent eux-mêmes le début de la révolution à Martan et ce vent sec et chaud qui bat actuellement son plein et surtout dans la région septentrionale du Togo. Hein. Alors, vous qui êtes natif du nord du Togo, comment expliquez-vous qu'une crise estudiantine s'étende à tout le secteur de l'éducation avec en toile de fond des revendications politiques puisque les manifestants scandent fort démission et fort dégage à Abbas Kaboua?
Oui, c'est vrai que le mouvement a surpris tout le monde. Le mouvement a surpris tout le monde quand c'est que le Togo à un des meilleurs services de renseignement de la sous-région, je veux parler de l'AMR. Et surtout que le mouvement part de la région ou de la préfecture natale du président de la République, c'est beaucoup plus, c'est très inquiétant. Mais vous savez, la partie nord du Togo, donc, que nous avons l'habitude d'appeler la partie septentrionale, mais il vit les mêmes problèmes que la partie méridionale. Mais je dirais même que c'est la partie la plus légère, puisque c'est le Sahel, c'est les terres très pauvres. Hein, vous avez les terres de la latérite, hein, un pays cabien, les cailloux, la latérite, tout ça. Il y a certaines cultures qu'on ne peut pas pratiquer, évidemment. Bon, alors là-bas, la pauvreté, j'allais dire, a élu domicile plutôt vers là-bas. Et en créant une université à Kara, qui est la propriété natale du président Yadema, je crois qu'il fallait suffisamment faire des calculs et puis des atouts, voir qu'est-ce que. Il n'y a rien à Kara, à part Hôtel Kara, qui difficilement survit à la crise depuis 20 ans, il n'y a rien. Ça marchait un peu avant les troubles de 1990. Avec le circuit touristique qui n'existe plus aujourd'hui. Hein? Bon, alors quand on crée une ville universitaire, je pense qu'on réfléchit pour savoir que c'est une ville qui est appelée à rapidement évoluer. Ça c'est un des deux. Et quand on crée une université dans un milieu, et comme Kara, il faut s'attendre à tout. Parce que on ne crée pas une université pour maintenir les gens dans l'obscurantisme. On ne crée pas une université pour demander aux gens de regarder dans la même direction que nous. C'est faux. Mmh. Aujourd'hui, avec l'Internet, vous me permettez de dire que même dans les villages les plus reculés, dès qu'ils ont le modem et tout ça, là, tout le monde est, sur Facebook, tout le monde est sur, c'est pour regarder tout ça, ce qui se passe.
Mmh. Oui, et Abbas Kaboua, Kara, le bastion, le fief du pouvoir, bientôt ses cantonnaires, n'a jamais manifesté contre le régime RPT. Hein. Des villes situées également au nord du Togo, comme Adingré, Sotoubois, Sokoré, Dapaon, par exemple, ces villes ont repris les manifestations avec une telle violence. Alors, monsieur Abbas Kaboua, vous qui êtes natif du milieu, je viens de le dire, alors comment expliquez-vous concrètement ce qui se passe actuellement au nord du Togo?
Oui, mais vous avez raison, c'est la lassitude. Et puis, quand vous dites que le pouvoir cinquantenaire, c'est vrai, c'est le pouvoir cinquantenaire, hein, c'est vrai. Mais quand vous êtes au pouvoir depuis 50 ans et que vous soutenez le même régime, vous ne voyez pas les fruits. La réalité de ce régime, vous ne partagez pas les fruits de ce régime-là, je crois qu'un m'a donné. Parce que les revendications en réalité que posent les étudiants, les enseignants sont d'ordre social. Hein. Bon, maintenant, vous savez, nous sommes en politique, il faut bien que les politiciens soient là contre ceux qui sont au pouvoir depuis 50 ans, évidemment. Bon, et je viens de le dire, c'est la pauvreté absolue dans le milieu. Quand vous prenez des blitas à 5 cassés, c'est difficile, c'est la désolation. Donc, c'est un rat de marre. Les gens exprimaient leur colère. C'est une colère contenue depuis des années. Et quand vous voyez que les gens crient, bon, que bon, le président doit dégager, tout ça là, je crois que c'est un signal très, 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 très fort, non seulement pour le président Fonadi lui-même, mais également pour les FPT, et surtout pour les barons, entre guillemets, les barons et de cette partie du Togo. Parce que tous les enfants sont unanimes à dire que c'est des gens qui sont très, très, très loin d'eux. Quand vous demandez à les voir, c'est impossible. Mais pendant ce temps, vous comprendrez que les gens roulent au Togo dans des voitures de 45, 50 millions, c'est pas. Alors, il y a un problème, il y a un malaise. Au même moment, vous dites aux enfants que l'État ne va pas, que l'État n'a pas d'argent. Je crois qu'il va falloir que tout le monde redescende sur terre, surtout les aînés. Et s'il y a eu des troubles, c'est vrai que on ne peut que déplorer. Parce que les revendications d'étudiants ne peuvent pas dégénérer jusqu'à ce que les enfants s'en prennent à des domiciles des responsables du FPT du gouvernement et à des défis de l'État, si le gouvernement également avait pris des mesures pour respecter la franchise des universités qui veut qu'on n'envoie pas les forces de l'ordre armées dans les universités, quand les enfants veulent se réunir pour les âges, je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen d'envoyer les forces de l'ordre pour les empêcher de tenir une âge. Quand vous êtes étudiant, vous ne pouvez pas tenir une âge, qu'est-ce que vous pouvez tenir finalement? Et ce n'est pas au marché contre une assemblée générale. C'est ça qui a dû dégénérer. Je crois que les responsabilités aujourd'hui sont partagées à ce niveau-là. Mm-hmm. Hein, chacun prendra pour son grade. Et puis, il saura que désormais, quand les enfants veulent faire AG, qu'ils posent clairement la demande de faire une AG, ce n'est pas au gouvernement de notre pays, ce n'est pas au fond de l'ordre d'autoriser une AG, une assemblée générale sur l'université, mais c'est plutôt le coordinateur des activités académiques dans le milieu qui doit autoriser cela, ce n'est pas les forces armées. Non. Ça, uh-huh. Nous avons des étudiants et moi qui vont vous envoyer les militaires pour régler les bons des étudiants, mais il y aura des étudiants, ça c'est clair.
Uh-huh. Oui, Abbas Kaboua, restez toujours en ligne, en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique en direct depuis Lomé. Notre collaborateur Romain est en ligne également, en direct depuis Beaune. Romain.
Monsieur Abbas Kaboua, bonsoir.
Bonsoir, monsieur l'ami depuis l'Allemagne.
Comment allez-vous?
Ben, ça peut aller, vous savez, je vous parle de la galère, c'est vrai, je suis sérieux. Hein.
Comment analysez-vous la gestion de cette crise par le pouvoir de Faure Gnassingbé qui semble adopter la méthode Ford? Le ministre Agba de la Santé, dans une interview, déclarait que la bourse ne sera jamais un salaire ni un droit.
Oui, c'est triste quand vous entendez les responsables de ce rang-là et confirmer ainsi. Je voudrais aussi dire que ce monsieur est universitaire, parce qu'il est professeur agrégé, je ne sais pas si vous le savez, il est professeur agrégé de vétérinaire, et professeur agrégé de vétérinaire ou je ne sais pas quoi, mais il a été plusieurs fois ministre lui-même, et d'ailleurs il a été ministre de l'enseignement supérieur de la recherche. C'est que son collègue actuel, en charge de ce département n'est pas du tout, alors là il faut dire la vérité, n'est pas du tout à la hauteur. C'est ce qui fait dire à tout le monde que le gouvernement gère mal cette histoire. Et ça c'est vrai, ça se voit. Parce que, en lieu de place, de presser plutôt l'apaisement, le ministre est plutôt la situation. Vous ne pouvez pas vous lever et dire qu'il n'y aura pas, que les bourses ne sont pas installées. Lui, il a étudié avec des bourses à l'époque. Jusqu'à 21 600 par mois, il les a eues. Et il a étudié à l'extérieur, au fait de l'État, au fait de la République togolaise. Pourquoi aujourd'hui les enfants qui viennent là, on ne le fait plus? C'est parce qu'on a convaincu les enfants que le pays a des problèmes économiques. Tout le monde est d'accord. Mais au moins, ce que les petits disaient, que l'État togolais doit mettre à la disposition des étudiants, je vais vous dire, je ne sais pas combien font 20 000 CFA en équivalent en euros. 20 000 francs CFA. C'est ce que les étudiants togolais ont comme aide par trimestre, je vais dire trimestre. Ça fait 3 mois. Tenez-vous bien, dans une ville comme Kara, vous allez trouver une chambre électrifiée, ça vous prend 4 000 à 5 000 francs CFA. Et vous devez payer 15 000 pour 3 mois. Donc, les 20 000, il vous reste 5 000, c'est pas pour vous nourrir, pour vous vêtir, pour vous soigner, pour acheter l'indignité, parce que nous sommes dans le système LMD qui est très mal expliqué. Également, on n'a pas le matériel didactique correspondant, n'est-ce pas, à ce système. Ce n'est pas comme le système classique qui veut que vous passez votre licence tranquillement en 3 ans, votre licence une année après, vous attaquez le DEA l'année d'après, ainsi de suite jusqu'au doctorat. Non. Bon, on a débarqué tout ça là, dans un pays où il n'y a pas de moyens pour faire face à l'éducation, mais on a des moyens pour faire face, n'est-ce pas, aux dépenses de prestige, et puis, je sais quoi dire, l'armée qui est devenue un budgétivore inutile dans le pays également. Mmh. Bon, je crois qu'il y a des priorités. Mmh. Il n'y a pas longtemps, le gouvernement a décidé de rénover les bâtiments de la télévision nationale togolaise et de le mettre sur satellite en débloquant 20 milliards, c'est pas. Alors, j'ai dit dans un débat, lors d'un débat sur le territoire national, est-ce que la télévision sur satellite aujourd'hui de l'État est une priorité? Pendant que, quand les Togolais sont malades, ils sont obligés de traverser les frontières, ils vont soit en République du Bénin à côté ou au Ghana pour se faire soigner. Ceux qui sont au nord vont au Burkina, à la frontière Burkina-Bénin-Togo, il y a un grand hôpital à Tanguieta, c'est le relais d'un hôpital de Milan, hein, et tout ça là. Non, non, ce n'est pas bien. Mm-hmm. Et tout ça, les enfants voient cela. Mm-hmm. Mais quand un grand professeur comme Abba vient dire, oui, que la bourse n'est pas un salaire ni machin, mm-hmm, moi je dis tout simplement que le gouvernement a démérité dans cette histoire-là, mm-hmm, parce que il fallait expliquer d'abord, il faut s'asseoir avec les concernés pour parler avec eux. Mmh. Les enfants savent que le Togo a des richesses. Les enfants savent que le Togo produit beaucoup de ressources. Les enfants savent également le train de vie de leurs aînés. Mais il faut s'asseoir avec eux, dialoguer, et leur dire que c'est une mesure transitoire, parce que vous ne pouvez pas avoir le bac à 15, et bien, vous ne pouvez pas commencer l'école et avoir votre bac à 27 ans, mmh, et venir vous inscrire. Peut-être finir vos études difficilement, peut-être dans le système LMD où, mm-hmm, les unités sont agitées avec des parents.
Mm-hmm. Abbas Kaboa, malheureusement, nous sommes limités par le temps dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Romain, vous avez sûrement d'autres préoccupations, Romain.
Évidemment. Monsieur Abbas Kaboa, de vous à moi, est-ce que vous reconnaissez tout au moins que la bourse n'est pas un droit, que c'est un mérite? Si c'est un mérite, alors, est-ce qu'il faudrait en accorder à tous les universitaires du Togo?
Romain, je suis content que vous touchiez du doigt à ce problème. C'est vrai que la bourse doit être au mérite. Mon parti a d'ailleurs fait le gouvernement il y a déjà 5 ans pour dire de ramener plutôt la bourse de façon mensuelle et au mérite. Maintenant, c'est au gouvernement de s'asseoir avec les acteurs, les partenaires, les divers partenaires. Je veux parler des corporations des étudiants, puisque le gouvernement a fait mouvement sur le campus, l'opposition en a, tout le monde en a, tout politisé dans le pays. Il faut s'asseoir avec tout le monde, avec également les enseignants, les différents syndicats d'enseignants du supérieur, pour voir dans quelle mesure on peut créer une loi qui oblige tout le monde à se plier. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui, nous avons les enfants de la partie méridionale qui font le bac à 15-16 ans. Contre, dans l'autre partie où c'est très difficile, ils vont à l'école un peu tard, mais ils ont le bac parfois à 23 ans, 24 ans. Qu'est-ce que je voulais faire avec 16 ans là demain dans l'administration de Togo? Il y a des problèmes. C'est vrai que la bourse doit être au mérite. Maintenant, à côté, on a indiqué des gens avec les aides. Vous comprenez? Bon, mais avant de supprimer une aide à quelqu'un à qui vous avez habitué pendant plusieurs années et tout, je crois qu'il faut parlementer. Ce n'est pas le dernier décret qui va sortir comme ça, tomber sur la tête de la personne. Non. Je crois que c'est ça qui a révolté les enfants. Parce que les enfants mettent devant la pauvreté de la région. Vous comprenez? Et je pense que tout ça là, c'est au gouvernement, ça se prévoit. Nous avons un premier ministre qui a fait de très bonnes études, mais ici apparemment il a des problèmes pour des collègues. Trois ans, il fait du surplace.
Monsieur Abbas Kaboua, une dernière question, puisque le temps est malheureusement contre nous. Alors, monsieur Abbas Kaboua, avez-vous un mot à l'endroit de la diaspora togolaise qui est quand même nombreuse à nous écouter en ce moment même? Il est également à noter que cette diaspora togolaise soutient les revendications des étudiants au Togo, Abbas Kaboua.
Oui, alors nous sommes contents que la diaspora soutienne la revendication des enfants, mais nous voulons également que cette diaspora nous vienne en aide, parce que nous nous sommes réunis, nous, comme vous l'avez dit au début de cette émission, moi je suis de Kara également, mais je suis de l'opposition, et on s'est réunis, on s'est dit, bon, puisque le gouvernement va couper les aides, il va falloir quand même accompagner ceux qui sont en année de maîtrise à finir leur soutenance, et puis voir concrètement comment on peut désormais nous organiser pour assister ceux qui n'ont pas du tout de moyens pour terminer leur cycle universitaire. Donc si la diaspora peut aider à chacun ce qui le concerne dans son canton, sa préfecture et tout, c'est pour cela que nous sommes en train d'encourager nos jeunes frères à créer les amicales de préfecture et de village pour que ça soit visible. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un s'élève comme ça pour solliciter l'aide des autres, alors qu'il a déjà une bourse en cachette et puis on ne le sait pas. Donc, on va s'organiser il faut qu'on s'organise, il faut que la diaspora non seulement soutienne de façon claire, et puis de façon également financière, parce que le problème est d'ordre, c'est le ventre, les enfants ont fait, ils vont casser tout, ils ont demandé tous les présents des taxes. Ah oui, c'est la fête, ils ont fait. Et ils expriment, du moins, leur mécontentement, parce que chaque fois, quand on a besoin d'eux pour les élections, ils sont prêts. Mais aujourd'hui, ils ont besoin d'eux, ils ont besoin de ceux qui les dirigent, parce qu'ils ont fait. C'est le ventre qui réclame, pour que maintenant le président réponde favorablement également à eux aussi leurs préoccupations.
Merci.
Donc, je crois que c'est ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens, ce n'est pas seulement les étudiants qui souffrent dans ces régions-là. Et dans cette région-là, il y a ceux qui ont fini, qui sont devenus les conducteurs de taxi moto qu'on appelle des migrants ou non. Ce sont les étudiants qui font les émigrants.
Merci. Merci.
Ils n'ont aucune perspective d'emploi.
Merci.
C'est ça qui les conduit, n'est-ce pas, à devenir violents.
Merci beaucoup, monsieur Abbas Kaboua. Je rappelle quand même à nos fidèles auditeurs du Radio Kanalka, dont cette émission Fenêtre sur l'Afrique, que vous êtes le président du mouvement des Républicains Centristes, MRC, un parti politique au Togo. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Fenêtre sur l'Afrique depuis Lomé.
Canal.
Oui, eh bien, comme annoncé en début d'édition, en début de cette édition, Thierry Lawson Alphonse Elou, ancien président du collectif des étudiants de l'Université du Bénin, est également en ligne, en direct depuis Canada. Et nous le recevons tout de suite. Alphonse Elou, bonjour.
Bonjour Amos, bonjour tous les auditeurs de Radio Canal K.
Merci de nous accompagner en direct dans cette émission depuis le Canada. Alors, Alphonse Thierry, je viens de le dire que vous êtes un ancien président du CUB, collectif des étudiants de l'Université du Bénin. Les universités de Lomé et Kara viennent d'être fermées par le gouvernement togolais suite à de violentes manifestations des étudiants qui demandent une meilleure condition d'études au Togo. Est-ce que vous soutenez ces étudiants qui ont le ras-le-bol?
Absolument. Je suis aussi président du MTN, le Mouvement pour un Togo Nouveau, Et le MTN vient de sortir un communiqué pour dénoncer donc la répression barbare que les forces de l'ordre ont exercée sur le campus universitaire. Et nous avons même appelé les anciens étudiants qui sont un peu éparpillés de par le monde à soutenir le mouvement étudiant et les revendications légitimes des étudiants togolais et des élèves et lycéens togolais. C'est pas possible, c'est pas acceptable ce qui se passe au Togo. Et nous dénonçons même l'incurie politique de ceux qui gouvernent ce pays, notamment Fonia Singbe et son premier ministre Godiché, qui sont incapables, n'est-ce pas, de faire preuve d'une vision éducative universitaire de recherche et d'excellence pour ce pays. Donc nous avons même demandé la démission du président de l'université de Lomé pour sa gestion chaotique de la situation universitaire.
Alphonse Tielou et Tielorson Elou, alors quel doit être selon vous, puisque vous êtes même de la diaspora, quel doit être selon vous le rôle de la diaspora togolaise dans ces moments très critiques de la situation sociopolitique au Togo, et car il semble-t-il qu'au nom du Togo, certains autochtones ont rejoint la manifestation et soutiennent également les étudiants.
Oui, absolument, la diaspora doit se mobiliser parce que la majorité des Togolais qui composent la diaspora aujourd'hui sont issus, n'est-ce pas, des universités du Togo et des lycées et collèges. Donc, il y a déjà 10 ans, nous dénoncions cette situation-là et la réaction du gouvernement, c'est de nous arrêter, nous mettre en prison. Et voyez-vous, donc, on a l'impression que l'éducation pour eux, ça n'a pas son importance. Et ils préfèrent dilapider les ressources de ce pays. Donc aujourd'hui que nous nous sommes retrouvés dans la diaspora, nous pensons que nous devons, un, nous mobiliser, et deux, apporter un appui systématique à nos jeunes frères et sœurs qui souffrent dans le système éducatif togolais. Mais au-delà du système éducatif, nous devons venir avec des solutions idoines, des solutions assez pragmatiques, pour essayer de régler le problème togolais dans sa globalité, parce que c'est pas seulement un problème éducatif, mais c'est aussi un problème politique.
Et en votre qualité d'ancien responsable des étudiants au Togo, quel message concret avez-vous adressé à ces étudiants qui manifestent?
Je leur dis de rester mobilisés, de ne pas céder à la violence et à la provocation des autorités policières et politiques, de ne pas céder un seul iota de leurs revendications, ce qui sont des revendications légitimes. Je suivais une vidéo de la manifestation des lycéens d'Addis Dogomé. Tout ce qu'ils demandaient, c'est nous réclamons le retour des professeurs. Et il dit, on ne veut pas de militaires, on veut des professeurs. Vous imaginez, les élèves ne demandent que ça. Et c'est un droit légitime. Et pour ça, ils sont brimés. Et donc, nous pensons que les étudiants, l'ensemble des étudiants, qu'ils coordonnent leur action sur tout l'étendue du territoire togolais, et qu'ils maintiennent leurs revendications, et qu'ils ne cèdent pas, n'est-ce pas, à toutes les menaces ou provocations des autorités incompétentes qui dirigent ce pays. Donc voilà, nous allons les soutenir et nous veillerons à toutes les brimades ou violations systématiques des droits de l'homme. Et nous demandons à toute la diaspora de se mobiliser pour que nous puissions conduire des manifestations dans nos pays respectifs pour attirer l'attention de la communauté internationale sur ce droit légitime à l'éducation des élèves et des jeunes togolais. Et aussi la réponse barbare qu'apporte Fonia Singbe dans toute son incompétence et son premier ministre, la réponse violente qu'ils apportent à ce droit légitime des jeunes togolais.
Exactement.
C'est acceptable.
Tielorson, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Une dernière question, vous avez 2 minutes rapidement pour répondre à cette question. Alors parlons maintenant de votre mouvement pour un Togo nouveau dont vous êtes le président, MTN. C'est donc un mouvement politique. Alors le MTN, mouvement pour un Togo nouveau, est porté sur les fonds baptismaux à Lyon, juillet 2011 dernier. Alors, Tielorson Elou, est-ce que votre mouvement est-il toujours actif?
Absolument. Le MTN est très actif. Nous avons compris que depuis le campus, où nous nous sommes mobilisés, nous avons manifesté, nous avons réclamé un certain nombre de droits comme le font nos jeunes frères aujourd'hui, la situation n'a pas évolué d'un seul état. On a compris que c'est un échec générationnel et qu'il faut aujourd'hui que la jeunesse togolaise dans son ensemble s'organise, se mobilise pour prendre son destin en main. Et c'est à travers donc un acte politique, et c'est ce qui a amené à la création du MTN, qui est un mouvement qui rassemble l'ensemble des jeunes togolais, non seulement de la diaspora, mais aussi à l'intérieur du Togo. Et notre objectif, c'est de prendre de façon concrète notre destin en main sur le plan politique, économique et social. Alors le MTN est très actif. Nous essayons de nous organiser. Et bientôt, tous les éléments de notre stratégie politique, nous allons donc le porter à la connaissance du peuple togolais. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous ne manquons pas de soutenir donc la manifestation des étudiants et lycéens sur toute l'étendue du territoire du Togo. Mm-hmm. Et nous demandons à tous nos membres d'appuyer donc ces revendications-là et puis de le rendre même généralisé pour une révolution Togo, parce que nous pensons que la vieille garde a échoué. Et la tentative de maintenir un fort ou un rebord à la tête du Togo, ce n'est qu'un fiasco de plus.
Merci.
Et qu'il faut tourner la page de ce régime de dictature. Mm-hmm.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lawson Alphonse Elou. Vous êtes un ancien président du collectif des étudiants de l'Université du Bénin. Vous êtes également actuel président du MTN Mouvement pour un Togo Nouveau. Merci d'avoir été en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, en direct depuis Canada.
Togo.com, ici Lomé.com, CVU-Togo-Diaspora.org, AfriqueInternews.com sont nos sites d'information panafricains, partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci pour votre fidélité. Merci. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, qui sera le 24 décembre. 24 décembre sera uniquement consacré à la fête de Noël. Noël pour les enfants, Noël pour tout le monde, pour tous les chrétiens du monde entier et pour tous ceux qui sont sur cette terre. Alors nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, même heure, même studio. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à toutes et à tous.